globalement, il n'y a pas de joueur qui vous ait déçu depuis le début de la saison. Vous n'avez pas de véritables déceptions, des interrogations, des angoisses par rapport à la valeur intrinsèque des joueurs et de l'équipe, si je comprends bien. Hein.
Non, moi je pense qu'on a un groupe compétitif, mais on a un groupe inexpérimenté. Vous savez, on a des joueurs, à part peut-être Cyril Roll et Olivier Choufflet, qui n'ont pas beaucoup d'années de première division derrière eux, soit parce qu'ils viennent de D2, soit parce qu'ils ont débuté il y a un an ou deux ans. Je pense qu'il faut laisser grandir ce club et cette équipe, parce que je pense qu'elle a un potentiel, je pense qu'elle est compétitive. Alors c'est vrai que par moment, quand on est en période de difficulté un petit peu comme on l'est maintenant, on va toujours trouver des choses à redire, mais ça, ça fait partie de la vie d'un club. Mais moi, j'ai mes convictions, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est de travailler, de persévérer et de croire à ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, je suis dans cette optique-là.
Marco ? Oui, Frédéric, vous pensez qu'il y a eu une petite fracture après le match de Lille, parce qu'on n'avait pas la même manière ici sur la même antenne. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y avait deux gyms depuis le début de saison, celui très enthousiaste d'avant le match de, enfin, les cinq matchs avant Lille et celui d'après. Est-ce que vous êtes d'accord? On a le sentiment que le gym s'est un petit peu perdu en route après cette déroute surprenante à Lille.
Il y aurait eu une fracture morale?
Écoutez, non, je pense pas que après le match de Lille, il fallait resserrer des boulons, ce qu'on a très bien fait contre Le Mans, et je pense que le fait d'avoir gagné 1-0 et d'avoir bien géré le match, c'est ce qu'il fallait faire. Ensuite, on a fait un match solide à Monaco, vous savez, Monaco va finir dans les 3-4 premiers, hein, donc vous verrez que ils seront à l'arrivée, en sa performance à ce moment-là, que c'est une performance. Ensuite, il y a le match de Marseille où on a une première mi-temps de bonne facture avec trois belles occasions nettes. Je pense que le coup de morale, on l'a pris peut-être quand on a pris le but. Parce que à ce moment-là, j'ai pas vu de réaction de l'équipe. Ouais, mais on y travaille tous les jours, donc...
Ouais. Oui, comment ? On a senti qu'il faisait mal, celui-là, ouais.
Ouais, parce que je pense qu'à ce moment-là, on s'est dit, avec tous les efforts qu'on fait, on n'est pas récompensé. Mais je pense qu'il faut persévérer. Vous savez, là, aujourd'hui, on travaille pour que ce genre de match, quand on perd 1-0, il faut les gagner 1-0 dans le futur. Et moi, je suis confiant par rapport à ça, parce que le groupe est compétitif, il est réceptif. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les 10 matchs qu'on a fait, vous l'avez rappelé, à part Lille, on a toujours tenu la dragée haute, même à des équipes beaucoup plus huppées que la nôtre.
Claude nous appelle de Nice pour poser une question à Frédéric Antonetti. On vous écoute, Claude.
Oui, bonsoir, monsieur Antonetti. En vous posant cette question, je ferai certainement plaisir à un grand nombre d'auditeurs. Pourquoi avez-vous évincé le jeune Ederson, qu'on ne voit plus sur le banc des remplaçants, et qui a fait une bonne fin de saison l'année dernière? Le GC Nice, depuis 60 ans, et je suis supporter, donc j'ai 67 ans, j'ai le sentiment, monsieur Antonetti, que depuis votre arrivée, vous n'avez rien apporté, vous êtes plutôt laxiste, et vous manquez de performance, voyez-vous. Quand je vous vois faire vos sélections de matchs, je ne sais pas, vous n'êtes pas du tout avec l'équipe, et je regrette beaucoup monsieur Gernot-Tror. Voilà, bonne soirée.
Et voilà qui est dit un petit peu crûment. Frédéric, la vraie question, c'était Ederson. C'est vrai qu'il avait fait quelques bons matchs l'an dernier, quelques moins bons. Il avait un peu glissé, un peu patiné à un moment. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée.
Ouais, mais toutes les questions sont posées. Parce que bon, dans 5 minutes, on va me poser la question pour un autre, et ainsi de suite. Bon, vous savez... Ouais,
c'est le jeu.
Oui, non, je suis d'accord, c'est le jeu. Mais bon, si on tient compte de tout ça, j'ai un effectif de 20 joueurs. Ederson est un joueur sur lequel je compte énormément. Parce que je pense qu'il a de l'avenir. Je pense qu'il est un peu tendre encore aujourd'hui pour prétendre à une place de titulaire. J'ai discuté souvent avec lui. Et je peux vous dire que je m'investis avec lui. Alors, quand j'entends ce genre de raisonnement, c'est des raisonnements... chacun a le droit de penser ce qu'il veut et croire en ce qu'il veut, mais c'est des raisonnements très négatifs qui n'apportent rien au débat.
Et Frédéric, vous avez, au-delà du cas Ederson, on a un petit peu parlé, c'est un joueur un peu plus huppé, un peu plus coté, j'ai envie de dire, c'est le cas de Marama Vairua. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à son sujet? Est-ce que c'est un joueur que vous allez relancer dans les prochains matchs?
Ben Marama fait partie de l'effectif comme les autres. Donc, aujourd'hui, il y a 5 attaquants de valeur avec des caractéristiques différentes. Et puis, bon, chacun aura sa chance à eux de la saisir. Ce qu'on ne tient pas compte, c'est que Marama a fait 4 matchs et qu'on voudrait qu'on commente un petit peu ces matchs-là aussi. Parce que, bon, c'est très facile de se dire pourquoi il ne joue pas quand il y a ses mauvaises performances, mais il faut voir tout dans sa globalité. Vous savez, quand on est responsable, je pense que je suis responsable, je regarde tout ce qui se passe autour. Moi, je pense que le bon exemple à citer, c'est Pancho Abbandonado, qui l'année dernière avait été écarté en fin de saison. Bon, moi, j'étais pas là, donc j'ai simplement observé, et qui avait très mal pris, et qui avait demandé à partir.
Oui, qui s'est vendu d'ailleurs, oui.
Comment ? Et qui, quand je suis arrivé, avait 7-8 kilos de trop. Et parce qu'il était pas bien, alors j'ai dit, écoute, la première chose à faire, c'est de te remettre dans le coup et de perdre tes kilos, et puis après on verra. Et j'ai dit, moi je fonctionne comme ça, 3 pour 2 postes, donc je fonctionne pour tout le monde comme ça. Et si tu es performant, si tu gagnes ta place, ben tu vas jouer. Et ce qu'il a fait, il a rien lâché. D'abord, il a perdu 8 kilos, donc c'était pas facile à perdre 8 kilos, vous savez, c'est pas
ouais, c'est dur, hein, on le sait.
Mais déjà, il faudrait pas les prendre, donc ouais. C'est la première remarque. Ensuite, il a perdu, et puis aujourd'hui, il est performant. Et c'est, je pense, c'est l'exemple à suivre. Et en voyant Pancho aujourd'hui, eh ben, je pense que c'est tous les joueurs devraient faire la même chose, parce qu'il n'a rien lâché. Aujourd'hui, il est récompensé, et j'espère que ça va continuer. Pour répondre à votre auditeur précédent, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais je lui donne rendez-vous dans quelques mois.
Merci en tout cas d'avoir répondu. Une question de Michel Delagode, il reste encore un petit peu de place, c'est au 04 93 82 03 04. Vous pouvez nous appeler jusqu'à 18h57, c'est-à-dire encore 11 petites minutes pour dialoguer en direct avec Frédéric Antonetti et avec Marc Benoît de France Football. Michel Delagode nous appelle.
Oui, bonsoir monsieur.
Bonsoir
monsieur Antonetti. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser, moi, parce que je suis un vieux supporter du gym, et des entraîneurs, on en a vu défiler, et des résultats, et tout ce qui y a et qui va pas. Alors moi, je voudrais vous poser une question, monsieur Antonetti. Monsieur Antonetti, vous ne voulez pas de Boucanso. Vous l'avez transféré à Troyes. Alors moi, je voudrais me poser la question, pourquoi vous n'avez pas voulu de Boucanso?
Écoutez, c'est pas vous transformez la vérité.
Ouais.
Donc moi je sais pas que je voulais pas de Boucanso. Moi quand je suis arrivé, il y avait 4 stoppeurs. D'accord. Et j'ai dit à Boucanso comme j'ai dit à d'autres, il y a la concurrence et le temps de jeu que tu vas pas avoir le temps de jeu que tu souhaites. Donc voilà, j'ai dit la vérité, comme je dis toujours la vérité. À ce moment-là est arrivée la proposition de 3 et c'est celui qui a choisi, c'est pas moi qui ai choisi. S'il était là, Boucanso, il serait là et peut-être qu'il jouerait, peut-être qu'il jouerait pas.
Ouais, il a fait un bon début de saison, puis après un peu moins bien, hein. À l'image de son équipe de 3 d'ailleurs.
Mais écoutez, je prends toujours mes responsabilités. Je pense que j'ai fait la meilleure équipe possible avec les moyens qui étaient les nôtres et j'assume complètement le fait que Boucanso était prêté. Il n'a pas été vendu, il était prêté parce qu'il appartient toujours au gym et il n'a pas été jeté. Je pense qu'il a du temps de jeu, qu'il fait ce qu'il doit faire, il doit faire des progrès et j'espère qu'on le récupérera encore plus fort.
Marco, Frédéric, vous vous laissez de large de manœuvre éventuellement pour récupérer un... Alors je sais bien que vous venez d'en parler, c'est vrai que vous n'avez pas une grosse marge de manœuvre financière, mais est-ce que vous laissez une marge de manœuvre humaine, j'ai envie de dire, pour récupérer un joueur comme Joker ou éventuellement pouvoir me manœuvrer lors du mercato au mois de janvier? Est-ce que ça c'est une possibilité?
Écoutez, tout est possible. Vous savez, moi je pars du principe qu'il faut constamment avoir l'idée d'une amélioration constante de l'effectif. Alors l'amélioration constante de l'effectif, il y a plusieurs solutions. C'est d'abord le travail au quotidien. Donc on a parlé d'Ederson, et moi je compte énormément sur Ederson dans le futur, mais on peut parler de Dolci, donc c'est des jeunes qui sont là, ou Loris, c'est les 3 plus jeunes de l'effectif, et on travaille tous les jours pour qu'ils progressent, pour qu'ils s'aguerrissent, et pour qu'ils soient dans les prochaines semaines ou les prochains mois des titulaires à part entière. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le travail au centre de formation. Peut-être qu'il y a un ou deux jeunes qui vont nous rejoindre. Donc, voilà. Ensuite, il y a
un jeune malien, notamment, qui a signé, je crois.
Ouais, mais il est très jeune. Il est 88, donc c'est pour après-demain, ça.
Ouais.
Donc, voilà. Mais on travaille constamment pour l'amélioration constante de l'effectif, donc au quotidien. Ensuite, il y a l'observation des matchs. L'observation des matchs qui est assurée par René Marfillard, Roger Ricord, Jean-Marie Deserbi, José Cobos. Donc, on travaille pour essayer justement, si à un moment donné on l'estime nécessaire et si les moyens le permettent, de pouvoir toujours améliorer l'effectif. Mais la solution ne viendra pas toujours de l'extérieur, elle peut venir aussi de l'intérieur par un travail au quotidien. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qui m'a appelé pour dire
que c'est vraiment qui est aussi un supporter,
d'accord, mais et qui je dis, c'est pour ça que j'ai donné rendez-vous parce que moi je crois beaucoup au travail et j'espère que dans quelques mois on pourra se reparler tranquillement.
Bonsoir Jamel, bienvenue.
Bonsoir. Moi, j'avais une question pour M. Antonetti concernant le placement, surtout au niveau des phases offensives. On voit qu'on a un problème de, au niveau des lignes entre le milieu de terrain et l'attaque. Je voulais savoir comment faire pour réduire cet espace-là pour que tout le bloc équipe puisse monter en même temps que les attaquants et le milieu pour pouvoir attaquer à plusieurs, parce que quand on attaque, généralement on attaque à 3, 4 et pas plus. Merci.
Alors c'est vrai, on a eu également, hein, pour aller dans le même sens que Jamal, plusieurs auditeurs depuis 15 jours qui nous disent on trouve qu'il y a beaucoup d'espace entre les milieux de terrain et les attaquants. Alors, est-ce que c'est les aléas du jeu ou est-ce que c'est un problème tactique que vous vous posez vous aussi, Frédéric, et auquel vous cherchez des réponses?
Non, mais vous savez, à chaque match, il y a une histoire du match. C'est vrai que le match contre Marseille, c'est vrai que peut-être on n'a pas attaqué tous ensemble. Et peut-être, c'était surtout valable en deuxième mi-temps et qu'on n'a pas été assez nombreux dans la deuxième partie, dans la phase offensive, c'est vrai. Mais c'est vrai que si on regarde les 10 matchs, bon, c'est faux, c'est complètement faux. Donc, on ne peut pas, après chaque match, tout remettre en question et refaire un effectif, et refaire une équipe, et changer un système. Vous savez, pour travailler un système, il faut des semaines et des semaines. Tout le monde parle de système, tout le monde, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que moi, si on me dit il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça, je dis les autres, ils jouent comme ça, comment vous jouez? Et à ce moment-là, je voudrais bien des réponses bien précises. Parce que bon, on peut m'attaquer sur beaucoup de choses, mais pas sur la compréhension du jeu.
Alors, donc voilà. Frédéric, il y a des auditeurs qui disent aussi, et c'est vrai qu'instinctivement, on peut comprendre cet avis-là, est-ce qu'il y a un moyen, peut-être qu'il n'y en a pas, hein, de faire monter un petit peu Balmont un peu plus haut, quand on sait que ce garçon, il a à la fois, évidemment, c'est un bon récupérateur, c'est aussi un bon passeur, il tire bien, enfin, il y a une envie comme ça de voir Balmont un peu plus près du but, un peu plus dangereux en plus. Alors, c'est en même temps, c'est un joueur qu'on voit tellement beaucoup qu'on se demande si on ne lui demande pas non plus de marquer les buts et de jouer avant.
Non,
mais est-ce que vous vous posez cette question aussi ou pas?
Écoutez, si vous regardez bien les matchs et si vous regardez l'influence de Balmont, il en a beaucoup sur le jeu. Ouais. Il est souvent à la dernière passe, très 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 souvent. Et s'il n'est pas souvent à la dernière passe, il est à l'avant-dernière, ce qui est important. Donc, peut-être que sur le dernier match de Marseille, oui, peut-être qu'il était un peu loin, c'est vrai, mais c'est l'histoire de ce match-là. Mais dans son ensemble... Dans son ensemble, Balmont est souvent, par exemple, à Monaco, il a 5-6 fois la possibilité de faire une dernière passe ou d'avant-dernière passe, ce qui est bien pour un milieu.
Marco ?
Oui, Frédéric, dans la configuration actuelle des choses, est-ce que vous pensez avoir réussi à tirer la quintessence de l'équipe actuellement ? Parce que c'est vrai, bon, on en parle au début d'émission, il y a des points bêtement perdus en route. C'est vrai contre Marseille, on met à perdre, contre Sochaux, on n'en parle même pas. Mais est-ce que vous pensez que, bon, c'est vrai, tout à l'heure on en parlait, notre auditeur a dit un peu crûment, c'est qu'au niveau du comparatif, si on peut faire rien que la saison dernière, c'est vrai que Nice a moins de points que l'an dernier à pareille époque. Donc est-ce que vous pensez que c'est encore votre méthode, votre système de jeu, j'ai envie de dire, qui n'a pas encore été totalement assimilé par les joueurs? Ou d'autres choses, par exemple?
Écoutez, je pourrais répondre méchamment moi aussi.
Je suis pas sûr que ça dit qu'on ait moins de points que l'an dernier à la même époque, parce que
non, mais
l'an dernier on avait très mal compensé.
Je regarde pas ça, parce que l'année dernière, il faut pas avoir une mémoire sélective. Il faut avoir une mémoire générale, il faut se rappeler de tout. Je vous rappelle que l'avant-dernière journée, le gym jouait son maintien et que ça s'est joué à un but ou à un arrêt de Grégorini. Donc ça s'est joué à très peu de choses. Et je pense que tout le monde l'a oublié. Comme par enchantement, on oublie tout, donc on oublie, bon, c'est bien, mais moi je ne l'ai pas oublié. Donc je dirais simplement qu'on veut faire une saison où on ne va pas se faire peur, et que peut-être à la 34e journée, ben, on sera beaucoup mieux classé que l'année dernière le GIP, j'en sais rien. Mais je pense que ça c'est des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, c'est pas la même équipe, c'est pas la même façon de jouer. Et voilà, donc je pense qu'on est parti sur un projet de 3 ans. Je préfère finir 13e, 9e et 6e,
Que l'inverse.
Donc voilà, et je préfère qu'on dise comment l'équipe joue plutôt qu'elle ne s'adapte toujours qu'à l'équipe adverse. Il y a plein de choses que je peux dire aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a bâti un effectif et je suis partie prenante complètement dans le recrutement, qu'on a bâti un effectif où des joueurs vont prendre de la plus-value. Donc voilà, et c'est une autre politique. Donc on ne va pas embrasser tous les ans 10 joueurs, on va simplement essayer d'améliorer, comme je vous l'ai dit, par le travail au quotidien, par quelques retouches aussi, parce que de temps en temps, il faut faire des retouches quand on a la possibilité, quand le marché est ouvert. Et à ce moment-là, on va essayer de faire progresser le club. Donc voilà, et c'est pas au bout de 10 matchs qu'on peut dire, on peut faire des conclusions. On peut faire
absolument pas. En tout cas, pas des conclusions définitives.
Bon, moi, je constate que tous les auditeurs sont pas contents. Et par contre, moi, j'ai beaucoup de témoignages où on me dit
c'est pas nous qui avons choisi.
Non, je sais bien. Vous avez choisi que je suis mécontent.
Non, on n'a pas choisi.
Je vais vous dire une chose. C'est normal qu'ils soient mécontents parce qu'on a un déficit de points.
Eh ouais.
On a un déficit de points.
Il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus sur les 10 premiers matchs. Hein.
Non, mais je ne saute pas au plafond. Vous savez, je suis très réaliste. Je ne saute pas au plafond. Je connais les difficultés de tout ça. Mais vous savez, on n'a pas les moyens de faire en une saison ce que les gens peut-être souhaitent. Parce qu'il faut un peu plus de temps, parce que ça passe par le travail, ça passe par de la patience. Bon, après, les gens, ils en ont ou ils en ont pas, ça, c'est notre problème. Mais ça passe par ça, donc voilà, exactement ça. Et je vous dirais qu'il vaut mieux avoir un parcours 13e, 9e et plus haut que l'inverse. Moi, si dans 3 ans, on joue le maintien, j'accepterai les critiques.
Dernier appel, ce qui ne sera pas un mécontent, qui sera peut-être une mécontente, puisque c'est Karine qui nous appelle de Nice. Karine, on vous donne 20 petites secondes pour
dire
votre petit mot.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Antonetti. Voilà, j'aurais une question. Non, moi je ne suis pas du tout mécontent, hein, c'est pas ça.
Ah, voyez.
En fait, je voulais savoir si vous envisagez de temps en temps de faire jouer le jeune gardien Loris, parce que je suis sûre qu'en CFA c'est un bon gardien.
Il est champion du monde, hein.
Vous avez des bonnes qualités en
Europe,
sur le terrain.
Europe,
donner aussi un peu de temps en temps sa chance. Et quand même, je sais qu'il a été, il n'y a pas très longtemps, quand même champion d'Europe en espoir. Voilà.
Ouais. En espoir, au moins 19. Faut être précis. Donc, vous l'avez vu jouer au moins 19 en réserve, madame?
Oui, je l'ai vu jouer.
Oui, combien de fois?
3-4 fois.
Oui, tous les matchs, alors?
Oui, pratiquement.
Vous l'avez toujours trouvé très bon?
Oui, je trouvais quand même pas mal.
Voilà, alors pour Hugo Loris, moi je pense que c'est un garçon d'avenir.
Il nous reste 10 secondes, Frédéric, vraiment.
Hein. C'est un garçon d'avenir sur lequel je compte. Je l'ai cité tout à l'heure en même temps que Dolci et Ederson. C'est des jeunes qui sont là, qui s'entraînent avec les pros et auxquels on va donner leur chance dans les prochaines semaines.